huitième rencontre donc jeunes et société, qui comportera donc deux communications. La première, celle donc de Michel Boson, sociologue, directeur de recherche à l'INED. Il est aussi membre du comité directeur de l'Institut Émilie du Châtelet et directeur adjoint du GIS. C'est toujours d'actualité. J'ai vu que la directrice avait changé récemment. Voilà. Tous deux donc, vont donc nous permettre de débuter ces rencontres par une réflexion sur les sexualités juvéniles et les paniques morales. Avant de lui laisser la parole pour nous parler de la manière dont l'expérience de la sexualité et des relations intimes juvéniles en tant que socialisation pratique au genre fait apparaître une recomposition des contenus de la masculinité et de la féminité, rappelons qu'il est l'auteur de nombreux ouvrages, articles, qu'il a co-dirigé des numéros de revues et de plusieurs ouvrages majeurs. Parmi les derniers et ceux les plus en lien avec cette conférence, citons « Pratique de l'amour », paru cette année chez Payot, « À quoi sert le sexe ?» avec Mireille Bonnierbal et Pierre-Henri Gouillon, « Sociologie de la sexualité » ou encore « Enquête sur la sexualité en France ». Je laisse donc la parole à Michel Boson pour une quarantaine de minutes et sa conférence. Vous avez, non, pas le titre à l'écran, donc je vais le donner. « L'accès à la sexualité et à l'intimité, une socialisation au genre sous tension ».
Bon, je remercie les organisatrices de ce colloque pour cette occasion de revenir à Lyon, hein, puisque c'est toujours ce que je dis, hein, je reviens à Lyon, hein, puisque j'en suis parti il y a bien longtemps, hein, mais sans en être toujours très loin. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de sexualité de genre, hein, et croiser avec la jeunesse, avec une première constatation, c'est que toutes les sociétés ont toujours voulu contrôler l'entrée des jeunes dans la sexualité, mais plutôt en fixant étroitement le cadre institutionnel et les règles selon lesquelles les femmes et les hommes pouvaient y accéder. Étape marquante de la construction de la masculinité et de la féminité, ce passage préfigurait plus largement la manière dont les uns et les autres allaient endosser les postures de genre asymétriques qui les hiérarchisent, d'où son importance de ce passage. Hein. Mais est-ce vraiment le même récit que l'on peut faire aujourd'hui de l'apprentissage conjoint du genre et de la sexualité. Si à l'époque contemporaine, l'expérience de la sexualité et des expériences intimes juvéniles est plus que jamais un mode de socialisation pratique au genre, elle traduit cependant une recomposition des contenus de la masculinité et de la féminité valorisés. Le recul des contrôles adultes directs, hein, la désinstitutionnalisation des expériences amoureuses initiales, ça veut dire que ça ne se fait plus dans un cadre institutionnel, la prolongation de la scolarité, le report temporel de l'horizon du mariage ou du couple, du couple au sens cohabitant, donne une marge de manœuvre sans précédent aux actrices et aux acteurs, mais qui s'accompagne paradoxalement, dans le même temps, d'un maintien de représentations fortement asymétriques, intériorisées par les dites actrices et acteurs, d'une montée des injonctions adultes genrées à la responsabilité de soi dans la sexualité, et aussi d'une explosion, on peut dire, des inquiétudes adultes à l'égard des jeunes. Cette conférence vise donc à élucider les effets de ce nouveau contexte de socialisation sur la construction du genre et de la sexualité qui se transforme, mais pas hors de toute norme et hors de tout cadre. Depuis les années 50 aux États-Unis d'abord, la sexualité des jeunes a été pensée comme sexualité prémaritale. C'est un concept qui existait, qui était bien constitué, et ce qui décrivait une période brève de pratique de la sexualité alors que le couple n'était pas encore formé, pas encore totalement formée, mais en passe de l'être. Alors, la sexualité prémaritale apparaissait comme un test qui était la touche finale de l'élaboration du couple. Il correspondait historiquement, d'ailleurs, à des mariages précoces et des transitions rapides de la sexualité au mariage. L'idée était répandue, mais débattue, qu'elle était utile, cette sexualité prémaritale, à condition de ne pas durer trop longtemps. Hein. Bon, donc c'était un grand débat dans les journaux de sociologie américains. Hein. Bon. Les années 2000 se caractérisent au contraire par un allongement de la jeunesse qui complexifie le rapport des jeunes à la sexualité. Deux sous-périodes biographiques peuvent être distinguées désormais. Une adolescence de découverte et d'initiation dans un cadre de socialisation assez contrôlé et institutionnel, mais aussi sous le regard des pères de même sexe, hein, qui font partie de ce paysage, et tout cela menant aux toutes premières expériences sexuelles, suivi d'une seconde période que j'intitule « jeunesse sexuelle », marquée par une plus grande autonomie privée, notamment vis-à-vis de la famille, mais aussi peut-être vis-à-vis des pères, une absence d'engagement conjugal fort et une acquisition de compétences sexuelles par les femmes comme par les hommes, avec des partenaires qui peuvent se renouveler. Mon hypothèse est que, alors que l'accès des adolescents à la sexualité, première période, hein, est marqué par une socialisation primaire très genrée, avec une version féminine assez sentimentalisée, une version masculine d'acquisition, de savoir-faire et de maturité, la jeunesse sexuelle se caractérise par un éloignement progressif à l'égard de la socialisation primaire, qui implique une autonomisation, une individualisation des préoccupations sexuelles et peut correspondre à un apprentissage du plaisir et du désir. Il n'en demeure pas moins, comme j'ai dit au début, que les jeunes restent confrontés à des représentations, des discours, des appels à la responsabilité, des recommandations adultes qui paraissent aujourd'hui d'autant plus nombreux que le contrôle direct et effectif des adultes s'est réduit. Hein. Inflation des discours, réduction des contrôles directs. Un des problèmes des jeunes, finalement, c'est qu'on parle beaucoup d'eux, hein, qu'on s'inquiète beaucoup d'eux, et différemment selon leur sexe. Ce contexte pesant contribue à peser durablement sur la manière dont ils interprètent leur expérience et sur la construction du genre. Cette conférence prendra le point de vue des jeunes d'abord, à partir de descriptions empiriques des deux moments de l'initiation à la sexualité que j'ai indiqué. Hein. L'initiation à la sexualité à l'adolescence et la consolidation et diversification des compétences pendant la jeunesse sexuelle. C'est la manière dont le genre se construit dans ces étapes sexuelles qui m'intéresse ici. Dans un deuxième temps, mais ça servira aussi de conclusion, je ne l'ai pas développé finalement autant que j'aurais voulu, je m'intéresserai au discours sur la sexualité des jeunes et sur les discours sur la sexualité en direction des jeunes, qui incluent par exemple l'éducation à la sexualité, ça en fait partie. Mais aussi les discours de prévention, mais aussi ce qu'on peut appeler plus généralement la panique morale adulte sur la sexualité des jeunes, mais à pas traiter forcément différemment. Hein. Bon. Alors j'utiliserai divers types de matériaux, des enquêtes quantitatives, évidemment, comme l'enquête CSF de 2006, que je ne vais pas présenter. Une enquête plus ancienne, la CSJ, c'est un petit hommage à Brigitte Laumont, ici, hein, donc de Hugues Lagrange et Brigitte Laumont, donc analyse des comportements sexuels des jeunes, hein, qui en fait interrogeait plutôt les adolescents. Hein, c'était les 15-18 ans qui étaient enquêtés. Et puis, bon, c'est l'occasion de montrer qu'il y a toute une jeune recherche en plein développement sur ces questions et qui s'exprime toujours d'abord, en fait, par des mémoires de M2, suivies ensuite éventuellement de thèses. Donc, j'indique un certain nombre de noms. Je ne vais pas donner les titres à chaque fois, mais vous verrez pendant la conférence intervenir un certain nombre de ces travaux. Hein, bon. J'ai mis aussi l'HDR de Christophe Giraud, qui va bientôt paraître en livre, qui s'appelle « Les chemins du couple » et qui porte sur la vie... la vie personnelle, hein, c'est son expression, des étudiants, hein, des jeunes étudiants. Bon, par ailleurs, des ouvrages, articles, monographies, bon, il y a des classiques déjà, quoi, Isabelle Claire, par exemple, hein, bon, c'est déjà un classique, hein, mais ça a été une thèse, hein, bon, donc voilà. Mais il y en a des moins connus. Claire Balèze, qui est une sociologue suisse qui a travaillé sur des lycéens à Genève. Aurélia Mardon, qui a fait une thèse et a écrit des articles sur les préadolescentes. Hein, bon, y a un volume, Les jeunes et la sexualité, paru chez Autrement, qui est tout un recueil très, très riche et très divers de contributions sur ce sujet. Un numéro récent de Terrain et Travaux qui s'intitule Socialisation masculine, auquel j'emprunterai également un peu. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a de l'actualité, hein, à travers ces travaux qui sont parfois donc des travaux de jeunes. Hein, qui... Bon, même si à l'adolescence, les jeunes se trouvent toujours sous la dépendance matérielle de leur famille et de l'école, le grand enjeu de leur vie, des 13-14 ans, est la construction d'une autonomie privée par les relations qu'ils entretiennent avec les groupes de pairs et les relations amoureuses sexuelles. À travers les réseaux de pairs, des normes et des contrôles collectifs se mettent en place. Cette construction ne se fait plus sous le regard direct des adultes. Donc l'adolescence est devenue une période de préparation et d'apprentissage de la sexualité. Hein, bon. Et toute politique d'éducation à la sexualité qui en fait pour objectif l'abstinence sexuelle est donc totalement à côté, puisque c'est exactement l'objectif des adolescents, sortir de cette situation. Hein, bon, donc vous voyez, il faut faire un peu de sociologie quoi, quand même. Hein, bon. La sexualité, objectif principal de l'adolescence, mais une entrée dans la sexualité qui s'est profondément transformée. Bon, on n'attend plus des filles qu'elles arrivent vierges au mariage, et on n'attend plus que les garçons acquièrent de l'expérience avec des femmes plus âgées. Hein, bon, pour présenter de façon un peu caricaturale des situations plus anciennes. Ce serait pourtant une erreur de croire que, évidemment, les débuts sexuels s'exercent hors de toute norme. Cependant, ces normes sont désormais plus intériorisées. Il faut, par exemple, se protéger pendant les rapports. Tout le monde le sait. Les garçons pensent d'abord qu'ils doivent assurer. Hein, c'est pas... les filles pensent qu'elles doivent être amoureuses. Bon, donc il y a des normes qui existent, qui ne sont plus exactement des normes morales, hein, mais quand même des normes, hein, qui les concernent. Donc à propos d'être amoureux, ça n'est pas une simple expérience individuelle ou un affect, c'est un passage et un apprentissage obligé, dont les réseaux de pairs contrôlent la mise en œuvre. C'est une obligation sociale. C'est pas, il faut le lire de cette façon-là, au lieu d'en avoir une lecture trop psy, je dirais. Il est important aussi de souligner que les adolescents engagés dans des relations qui consolident activement leur autonomie ne sont plus des enfants, malgré le désir éventuel de leurs parents et de certains professionnels, que je ne nommerai pas, de les maintenir dans un état d'enfance, en les appelant les enfants, hein, par exemple. Hein, c'est pas... Donc, voilà. Alors, une autre considération un tout petit peu plus générale, mais qui s'applique particulièrement à cette période de socialisation primaire, mais à toutes les formes de socialisation secondaire également, c'est le fait que les principes auxquels les individus se réfèrent dans leur vie sexuelle se présentent de moins en moins comme des lois qui fixent le licite et l'illicite en référence à une morale fixe préétablie. Les institutions qui transmettaient les préceptes de la bonne sexualité, religion, communauté locale, l'organisation sociale du mariage et de la famille, j'ai même rajouté les internats, chose qui a un peu disparu, mais qui assurait une sorte de cadre de socialisation très, très fort et très strict, ont perdu une grande part de leur pouvoir d'imposition et de contrôle. Hein, ce sont déjà, sous cette forme-là, des institutions du passé. Pour les jeunes, les sources d'informations et de discours sur la sexualité se sont trouvées multipliées de façon exponentielle. Donc il y a les médias, Internet, la psychologie populaire, la médecine, l'école, mais l'école c'est plus l'internat, enfin bon, c'est bien autre chose, les campagnes de prévention, la littérature, la publicité, le cinéma, les enquêtes sur la sexualité, voilà. Et on peut rajouter à ça, même si on n'a pas l'habitude de penser les mouvements sociaux comme ça, les mouvements sociaux, comme le féminisme, le mouvement LGBT, je dirais aussi les mouvements étudiants, plus récemment les mouvements de personnes handicapées, qui sont des... mouvements qui mettent en avant de nouvelles normes, qui sont débattues publiquement, qui sont connues et qui interviennent comme propositions. Ça fait débat. Ça fait débat. Et donc, il y a une véritable prolifération de discours, de savoirs et aussi d'images de la sexualité, ainsi que de recommandations en matière de comportement. Bon, tout ça prolifère. Mais à la différence des normes anciennes qui s'appuyaient sur des institutions fortes, comme l'Église ou la famille ou l'État, l'influence directe de ces discours sur les pratiques individuelles demeure limitée, car ces contenus et ces discours ne sont plus associés à des appareils de contrôle et de sanctions efficaces, hein, qui étaient le point commun des premières institutions dont j'ai parlé. Hein, bon. Une émission scientifique sur la sexualité à la télévision n'a aucun pouvoir de contrainte. Hein, bon, c'est un élément qui apparaît. On vous dit, on peut vous dire, vous devez faire ça, ou c'est bien de, ou c'est bien pour le couple de, ou c'est, etc. Mais c'est tout. La plus grande nouveauté, c'est que c'est aux jeunes eux-mêmes qu'il revient d'élaborer les lignes directrices de leur conduite en matière de sexualité, à partir de ces multiples discours, de leurs expériences personnelles, de l'observation du comportement de leur père. Alors, je rentre tout de suite dans un exemple. Hein. Kevin Dieter est un doctorant qui travaille en thèse sur l'amour à l'école primaire. Hein, vous savez que c'est une grande question qui fait toujours rire dans les familles, bon, dès la maternelle, etc. Il vient d'écrire un article sur Terrain et Travaux sur l'amour chez les garçons à l'école primaire. Hein, bon. Donc il ouvre la boîte de la socialisation, la boîte noire de la socialisation primaire, dont en général, on suppose l'efficacité, mais sans l'observer, sans voir comment ça marche. Hein. Bon. Il montre que divers acteurs, de façon différenciée, hein, les pères, le personnel éducatif et les parents, contribuent à la construction et à l'activation des dispositions des garçons à aimer ou plutôt à se méfier de l'amour. Hein, bon, donc c'est pas quelque chose qui n'est que les pères, comme on dit, hein, P-P-I-R-S, hein, c'est plus large. Ceux qui se déclarent amoureux ou intéressés par l'amour, hein, par exemple, y a de très belles observations de cours de récréation dans son article, se voient rappeler le caractère féminin ou bébé, hein, bébé, pire, peut-être pour des garçons, de la chose. Et pas seulement par les pères. Hein, les pères interviennent directement, se moquent d'eux, « Oh la fille, oh, il est bébé », etc. Mais les éducateurs reprennent un peu la chose de façon un peu plus enrobée, etc. Cependant, ce qu'il note aussi, parce qu'il a interrogé aussi les parents, c'est que des différences apparaissent entre parents selon l'origine sociale et que certains parents intello ne dévalorisent pas les expressions amoureuses chez les garçons. Hein, sans aller jusqu'à les interroger, ils les voient avec sympathie. Hein, bon. Autre point, là je prends une enquête Kanti, hein, bon, pour changer, pour montrer que on peut tout mettre ensemble, on peut interroger les... Bon, donc, une question de l'enquête CSF, donc 12 000 personnes, etc., sur, de 18 à 69 ans, donc interrogée sur les moyens par lesquels elles s'étaient procurées leurs toutes premières informations sur les moyens d'éviter d'avoir des enfants. Donc, les jeunes femmes citent dans l'ordre... Hein, bon, alors on l'a interrogé aussi les plus âgés, hein, mais là, on parle des jeunes. Hein. Donc, elle cite dans l'ordre l'école. Bon, donc c'est pas si mal pour l'école. Hein, donc ça... la télévision. Bon, vous voyez, hein, c'est plus l'église. Hein, bon. Et leur mère. Ah tiens, la mère, elle est toujours là. Hein. Bon, donc il va falloir revenir sur la mère, la place de la mère, et peut-être rediscuter le rôle éventuel des parents. Hein. Bon. Donc le rôle de l'école s'accroît, et celui de la mère se maintient, voire se renforce, mais parmi les femmes. Hein. Les mères continuent à assurer un véritable travail sanitaire, comme le disait Geneviève Cresson, mais qui... touche surtout, et c'est là qu'il faut bien voir, les filles. Donc ce n'est pas un travail sanitaire tous azimuts. Hein, bon. Les garçons, chez les garçons, en revanche, les pères continuent à jouer un rôle spécifique. Donc voilà, tout ça c'est pour réfléchir hein, sur les choses qui interviennent dans la construction des dispositions. Bon, alors, autre élément quanti, il n'y en aura pas tant que ça. Pour commencer par les débuts sexuels, est-ce qu'il révèle des rapports entre femmes et hommes ? Voyez sur ce graphique une évolution de l'âge des débuts sexuels des hommes et des femmes au fil du temps. Alors, la courbe, le temps donc, va de gauche à droite, des années 40 aux années 2000. La courbe du haut, c'est les femmes. La courbe du bas, c'est les hommes. Et un certain nombre de grands événements sont indiqués par des lignes verticales. Hein. Bon, vous avez la Deuxième Guerre mondiale, vous avez la loi Neuwirth de l'égalisation de la contraception, en même temps que mai 68, la loi Veil, la première campagne de prévention du VIH, les traitements antirétroviraux. Hein. Bon, voilà, un certain nombre d'événements... qui sont très divers hein, du point de vue historique, mais qui permettent de discuter. Alors, au début de la Seconde Guerre mondiale, donc dans la partie gauche du graphique, les hommes commençaient 4 ans plus tôt que les femmes, 18 ans contre 22, ce qui faisait de la France un pays... latin typique, hein, bon, parce que c'est, ça a longtemps été la caractéristique des pays latins, c'est-à-dire initiation assez précoce chez les hommes, assez tardive chez les femmes. Hein, bon, donc voilà. Et un des changements majeurs survenus ces dernières décennies, c'est la baisse de l'âge des femmes au premier rapport, qui induit un rapprochement des calendriers d'entrée en sexualité avec les hommes. Les plus grands mouvements se sont produits dans les années 60. Avant que vous voyez à la baisse de la courbe dans ces années-là, hein, qui est très forte, hein, pour les femmes. Donc avant que les moyens de contraception médicale ne se diffusent, donc c'est pas la conséquence de la pilule, etc., etc., mais c'est un changement d'attitude qui a précédé. Et avant même, au sens strict, le mouvement social de mai 68. Mais je sais que les historiens ont une compréhension plus vaste de 68, qui commencerait en 60 et qui finirait en 80. Hein. Bon, donc le livre de Michel Zancarini, bon, prend quelque chose de bien plus large comme... bon, en tout cas, ça va à l'appui de cette idée. Hein, bon. Dans les années 80 et 90, l'âge au premier rapport s'est au contraire stabilisé pour les hommes comme pour les femmes. Vous voyez que ça devient beaucoup plus plat, les courbes. Et que la France s'est ainsi rapprochée de l'Europe du Nord. Hein, vous voyez qu'on était un pays latin, mais on a voyagé un peu vers le Nord, là. Bon, avec un premier rapport en 17 ans et 17 ans et demi, pour les garçons comme pour les filles, et ça n'a pas beaucoup changé depuis. Hein, bon, pour dire que c'est relativement et remarquablement stable. C'est du moins ce que disent nos enquêtes, et même des enquêtes plus récentes. Donc il y a a priori une sorte de rapprochement entre les sexes. Bon. Alors, autre élément que je vais vous donner, qui circule un petit peu moins, celui-là. C'est le lieu de rencontre du premier partenaire. J'ai indiqué sur cette diapo les principaux endroits où les jeunes ont rencontré leur premier partenaire. Vous voyez que l'école joue un rôle particulier, puisque parmi les personnes de 18 à 24 ans, 48% des hommes, un sur deux, et 30% des femmes, ce qui réclamerait interprétation à cette différence, ont rencontré leur premier partenaire par l'école. Bon. Alors, un autre exemple, là je crois que je l'ai jamais montré, c'est comment cette diapo montre comment le statut du premier rapport, transgressif ou relativement attendu et normalisé, a une influence sur le cadre matériel où il se déroule. Ainsi, pour des premiers rapports d'il y a 40 ans, hein, des hommes qui ont 60 à 69 ans, le fait qu'ils se déroulent dans un tiers des cas en plein air ne signifie pas un amour de la nature, naturellement, mais une absence de légitimité de cette sexualité initiale, sa relative clandestinité. Bon, en fait, on a surtout du sable qui fait mal aux fesses ou des pierres un peu dures. Hein, bon, alors que l'époque contemporaine se caractérise par une forte, ai-je dit, domestication, c'est-à-dire à la fois acceptation et banalisation du premier rapport et donc de son cadre. Donc, vous voyez, le domicile des parents, de l'un ou de l'autre, hein, qui intervient dans deux tiers des cas, bon, c'est plus confortable aussi. Hein, bon. Je vous laisserai commenter, si cela vous intéresse, l'émergence et le déclin de la voiture, hein, bon, qui apparaît historiquement, puis disparaît. Bon, donc, voilà, c'est pour les cours de sociaux, ça. Hein, bon, c'est... bon, alors... maintenant, revenons aux adolescentes et leurs mères, hein, bon, dont on parlait tout à l'heure. Dans le cadre de la multiplication et du caractère de plus en plus divers des sources normatives sur la sexualité, on peut se demander comment la parole parentale est reçue par les adolescents. C'est plutôt un problème de réception qu'il faut adopter qu'un problème d'influence, je dirais. Hein, bon. La parole des parents est entendue, notamment celle de la mère par les filles, mais ce n'en est qu'une parmi d'autres. Hein, c'est ce statut qu'il faut arriver à penser, hein, une parmi d'autres. Elles n'ont pas vocation, les mères, à être confidentes en raison de leur position d'autorité. Elles n'ont pas vocation. Ça ne veut pas dire que ça ne se passe pas éventuellement. Mais elles n'ont pas vocation. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Hein, bon. Les adolescentes interrogées par Louise Offroy intègrent généralement les préoccupations qui leur sont transmises, mais qui ont été transmises aussi par d'autres sources. Une norme de sexualité inscrite dans l'affectivité qui les incite dans les débuts à attendre et à faire attendre. C'est une attitude typique des tout premiers rapports qui disparaît ensuite. L'idée d'une maîtrise nécessaire de leur féminité dans l'apparence, hein, la féminité modérée dont avait parlé Aurélia Mardon, la prise en charge personnelle des enjeux sexuels et reproductifs dont on a déjà parlé. Alors, dans un cadre social nettement distinct, hein, de classe populaire urbaine, Isabelle Claire décrit à la fin de son livre sur les jeunes et l'amour dans les cités ce que fait la première expérience de coït aux filles et aux garçons. Son anticipation, son déroulement, ses suites. L'aspect transgressif reste ici très marqué, lié pour les filles à l'idée de la douleur, anticipée, pas toujours vécue, mais parfois si, et à la culpabilité. Mais de façon surprenante, note aussi Isabelle Claire, pour elle comme pour les garçons, l'accès à la sexualité peut, si tout se passe bien, révéler d'autres aspects de leur personnalité et de celle des garçons, différents des images caricaturales de la socialisation primaire. Hein, c'est-à-dire révéler d'autres choses en réalité. Hein, que, bon, finalement, ce n'est pas une brute. Ou ce ne sont pas tous des brutes, finalement. Où il a un côté, etc. Je donne des exemples. Et puis qu'elles, finalement, elles aiment bien le sexe, quoi. Hein, bon, quand même. Hein, c'est pas malgré, bien que ça ne soit pas très correct. Bon. Alors, un autre exemple, un livre qui fait suite à une thèse. Claire Ballet s'intéresse à des lycéens adolescents de 14 à 16 ans qui pourraient être les grands frères des garçons du primaire de Kevin Dieter. Leur attitude est complexe. Ils ne sont pas du tout obsédés par le sexe, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais par l'idée de devenir grand. Hein, c'est l'obsession des garçons, c'est de devenir grand. D'en acquérir le statut, du moins, parce que c'est comme ça qu'ils le voient, c'est-à-dire c'est des étapes à franchir, des épreuves de grandeur, on va dire. Hein. Avoir une copine en fait partie, mais il faut aussi être capable de ne pas y accorder trop d'importance et de supporter les vannes des copains. Bon, ça aussi, ça fait partie de cette épreuve de grandeur, quoi. Hein, c'est pas... mais ne pas en avoir, c'est rester un petit. Hein, bon, donc on retrouve le bébé, hein, le risque de rester bébé, de rester petit, qui est ce qui obsède, à mon avis, les garçons. Alors, un autre aspect, donc un chercheur déjà plus avancé, donc dans son HDR qui va paraître, sur la vie affective des étudiants, montre que les modes de vie relationnels de ces derniers, marqués par une autonomie résidentielle relative, ne sont pas axés sur le couple pur et dur, avec co-résidence, mais sur des formes relationnelles assez ouvertes qui vont de pair avec des renouvellements de partenaires. À noter, par exemple... Un des exemples les plus typiques, c'est les relations sans prise de tête, hein, qui ont l'air d'avoir le plus d'importance, hein, dans sa typologie, et que j'ai été amené à commenter dans mon livre sur pratique de l'amour, parce que c'est très caractéristique d'une manière de construire une relation amoureuse, hein, bon, c'est-à-dire sans parler d'amour. Alors, un dernier exemple, qui est celui de Virginie Rigaud, qui, constatant que plaisir et désir ne font pas l'objet d'échanges familiaux ou éducatifs, ne sont pas un objet de la socialisation primaire du tout. Hein, bon, à aucun moment on ne s'interroge sur ces questions-là et on en parle. Donc se demande, s'interroge sur le fait que les femmes tirent et apprennent à tirer du plaisir de leur relation hétérosexuelle. Bon, pour elles, c'est une sorte de paradoxe à cause du contexte hétéronormatif et de la domination structurelle des hommes qui ne valorisent pas tellement leur sexualité. Mais elle constate que néanmoins, on apprend à prendre du plaisir et elle se demande comment. Hein, bon. Donc elle montre que pendant la période de jeunesse sexuelle, vous vous souvenez la définition que j'en ai donnée, hein, c'est la période, une fois que l'initiation sexuelle est passée, qui se déroule avant qu'on entre en couple cohabitant, une période de plus en plus longue. Hein, bon, pendant cette période de jeunesse sexuelle, elles acquièrent de façon tout à fait active une compétence en matière de plaisir. Hein, bon, donc, contrairement à une image très passive qu'on en a. Hein, et que peut-être les sociologues ont contribué à répandre. Donc j'en donne trois petits extraits qui montrent cette curiosité active, mais aussi les limites de cette exploration. Un exemple dans un cadre conjugal, mais où on voit l'activité de la personne qui a 27 ans quand elle raconte ça. Elle dit « On s'apprenait l'un et l'autre dans le sens où moi, j'apprenais à être plus patiente et lui, il apprenait à faire plus de choses. Je l'ai guidé. Dans le sens, je lui ai expliqué que parfois, me toucher plus en bas, c'est quelque chose que j'aime, alors que lui, c'est pas forcément... Je lui dis juste la main, tu vois, ça me suffit. Ensuite, je lui ai montré ce qui me faisait plaisir quand il allait en bas. Bon, alors, voilà, par exemple, une technique dans un cadre conjugal, hein, qui reste conjugal. Alors, pourquoi rester au conjugal? Donc, une jeune femme de 21 ans qui dit « J'ai vraiment fait la folle. » Enfin, je ne sais pas. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je sortais de prépa. J'étais totalement déluré et j'avoue que j'ai fait l'amour avec trois personnes en quelques mois, mais juste comme ça, enfin, puis je sais pas, j'avais encore envie de faire la folle, j'avais pas envie de m'enfermer dans une relation dans laquelle je croyais pas, enfin, c'était vraiment des contraintes pour moi. Bon, donc voilà un autre exemple, une autre manière de faire, mais toujours dans la même période, hein, vous voyez, je voudrais qu'on caractérise un petit peu cette période parce qu'on parle trop des adolescents et pas assez de ce qui se passe après, alors que la jeunesse, maintenant, c'est ça aussi. Bon, et puis alors un troisième exemple que je vais appeler l'anneau vibrant, donc vous allez comprendre, parce qu'on a fait des recherches. Recherche, ça veut dire Internet, et puis c'est pas la recherche scientifique. Hein. Parce que, comme j'ai pas beaucoup d'orgasmes, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait et comment qu'on essaye d'améliorer notre sexualité. Et du coup, en fait, on a regardé. Normalement, c'est un truc, du coup, qu'on enfile sur le sexe de l'homme et qui est censé, du coup, pendant la pénétration, lui, il fait son truc normalement, est censé vibrer et, du coup, pouvoir avoir provoqué l'orgasme chez la femme plus facilement pendant l'acte, et donc on s'est dit que c'était parfait pour nous. Du coup, c'est censé provoquer des vibrations sur le clitoris en même temps que la pénétration, et donc, du coup, forcément, ça doit bien marcher. Bon, donc, en fait, ils ne l'ont pas fait encore, mais elle fantasme quand même beaucoup sur la chose. Mais comme vous voyez, dans un cadre qui reste très pénétratif, hein, autour du coït, hein, bon, donc, lui, il fait son truc normalement, remarqué, hein, bon. Mais tous les à côté sont explorés. Hein, c'est-à-dire qu'on peut dire que on essaye d'enrichir le menu. Hein, bon, et c'est un peu ce travail qui est fait très activement pendant la jeunesse sexuelle. Donc il y a tout un éventail d'attitudes qui peuvent intervenir. Bon. Alors, donc maintenant, je vais passer un petit peu à la partie finale qui porte sur les discours sur la sexualité, les discours adultes sur la sexualité. Alors, l'un d'entre eux, c'est les discours de l'éducation à la sexualité. Alors, l'éducation à la sexualité, je veux pas développer beaucoup, il y a des thèses entières qui se font là-dessus en ce moment, hein, bon, et c'est très bien, enfin, mais des thèses de sociologie qui sont très pratiques, qui explorent comment se fait l'éducation à la sexualité en pratique. Donc il y avait une vision conservatrice et qui reste présente largement dans le public, selon laquelle la famille seule aurait légitimité à parler de sexualité aux jeunes et qui n'est pas légitime pour par exemple, l'éducation nationale d'en parler. Bon, donc l'éducation nationale, dans sa prudence, est très marquée par la présence de ce discours. Le résultat est que dans l'éducation sexuelle à l'école, les enjeux techniques et sanitaires l'emportent sur un enjeu de genre qu'on pourrait y mettre, puisque on a bien vu que l'accès à la sexualité, c'est une socialisation au genre. Mais malheureusement, l'éducation à la sexualité n'a pas intégrer cet élément-là. Hein. Et donc, l'éducation à l'égalité à travers l'accès à la sexualité n'est pas un enjeu central. Ça apparaît bien dans les documents. Hein. Bon. On en voit des exemples au fait que la violence de genre, quand elle est mentionnée, apparaît toujours de manière assez psy comme une forme d'incompréhension entre les sexes. Hein. On n'arrive pas, merci, à parler de pouvoir là-dedans. Ou que l'homosexualité, bon, on en parle à propos du fait que l'homophobie, ça n'est pas bien, mais ça reste un problème privé, hein, en tant que dont l'école, en principe, ne doit pas parler. Hein, bon. Donc voilà un exemple où on peut dire que l'école ne contribue pas tellement à interroger le genre. Alors que ça semblerait être une bonne occasion. Alors, tout cela est lié au fait que la jeunesse a toujours été pensée, je ne vais pas non plus le développer parce que vous le savez très bien, comme des cibles de prévention. Dans le domaine de la sexualité, enfin c'est vrai dans tous les domaines, mais dans le domaine de la sexualité aussi, par exemple dans le domaine de la prévention du sida, où à un moment donné, on voit que la prévention en direction de la jeunesse s'est imposée, mais c'était pour résoudre des problèmes politiques. C'était plus facile d'obtenir un consensus sur il faut protéger ou inciter les jeunes à se protéger que de parler du fait que l'épidémie était homosexuelle, que, etc., etc. Hein, bon. Donc, de même, une chose qui en découle, mais dont on a peut-être moins conscience, c'est que la prévention tend à se diriger vers les femmes. Après, c'est dirigé vers les jeunes, ce qui donne, intersection, les jeunes femmes. Parce qu'elles seraient plus responsables. Alors donc, ça donne des discours sur la contraception, sur la violence. Je passe tout de suite à un extrait que je vous invite à parcourir très rapidement du rapport sur la santé des femmes du Conseil économique et social qui indique qu'il est pertinent de sensibiliser le plus tôt possible les jeunes filles aux questions de santé parce qu'elles sont généralement plus réceptives que les jeunes garçons sur ce sujet. Elles seront ainsi mieux préparées pour contribuer à la transmission des connaissances en la matière. Bon. Donc vous voyez ce que c'est qu'un rôle qu'on attribue socialement, discours qui va dans le même sens que celui des mères, comme vous voyez. C'est pas en contradiction, c'est pour ça que c'est assez fort. Hein. Bon, donc... je finis, c'est les deux dernières diapos, sur le phénomène, disons, de l'anxiété des adultes à l'égard de la jeunesse, alors qui se repère très fortement dans les médias si on suit tout ce qui se dit sur la sexualité dans des médias. Hein, bon, on a des fantasmes réguliers qui circulent. dans les médias, mais aussi chez les personnes en contact avec les jeunes, pour d'autres raisons, par exemple sur des âges moyens au début sexuel qui seraient devenus de 12-13 ans. Bon, on voit régulièrement ça dans des publications éventuellement sérieuses, sur des épidémies de grossesse adolescente qui n'ont jamais existé en France, des pratiques sexuelles perverses qui seraient en plein développement dans les écoles, sur une inquiétude évidemment de plus en plus forte à l'égard de l'homosexualité persiste avec les groupes Vigigender, qui l'expriment de manière ouverte, mais il y a des manières indirectes chez des plus progressistes. L'habillement des jeunes filles est régulièrement critiqué comme hypersexualisé, voire libertin. Les règlements scolaires des écoles, les règlements intérieurs disent des choses là-dessus, sur les filles, jamais sur les garçons, etc. etc. Bon. Alors, au carrefour de toute cette anxiété, sur laquelle qu'il faudrait étudier, à mon avis, de manière plus organisée que moi, se trouve la pornographie, qui est dénoncée en France, jamais dans d'autres pays. Hein, j'ai jamais vu de campagne dans d'autres pays sur ce thème-là, comme le danger par excellence pour la jeunesse, avec les pulsions d'imitation que ça provoquerait, des complexes, une perte de sens de la réalité, des comportements violents. Isabelle Claire a interrogé les jeunes des cités sur la pornographie. Ils en voient, mais en gros, ça leur sert à distinguer de la réalité. C'est-à-dire qu'ils ont aussi un regard critique. Ils voient de toute façon beaucoup de choses et qui savent, en général, distinguer de la réalité. C'est un abcès de fixation de l'anxiété adulte en France, majoré par le fait que la vision se fait largement par Internet, qui lui-même concentre de nombreux fantasmes et de nombreuses craintes. Alors, le paradoxe de cette anxiété sexuelle en France, c'est qu'elle donne lieu à des discours très alarmistes sur tous les risques que courent les jeunes, mais pas de véritable croisade morale. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a jamais observé de croisade morale. En raison de l'absence peut-être de groupes religieux militants forts, aucun groupe organisé ne recommande la mise en valeur de l'abstinence comme méthode d'éducation sexuelle, ce qui nous distingue d'autres pays. Donc les effets de l'alarmisme sexuel semblent plutôt indirects. Ils contribuent à reformuler, sans le dire, un double standard de comportement selon le sexe, où les femmes représenteraient l'agent civilisateur, parce que civilisé par nature, voué à inscrire les hommes dans une sexualité positive, conjugale, procréative, hétérosexuelle. Donc, dernière diapo. On observe que les préoccupations des années 2000 ne sont plus celles des années 50, puisque, en fait, des préoccupations adultes, il y en a depuis longtemps. Dans les années 50, c'était les femmes qui inquiétaient pour une expression qu'on employait à l'époque avec un sens très négatif pour leur liberté sexuelle. C'était une expression employée. Alors qu'aujourd'hui, ce sont les hommes, notamment racisés, qui préoccupent pour leur comportement. Donc, depuis les années 2000, a monté l'appel dans tous les sens à la responsabilité sexuelle, qui n'est pas la morale. C'est quelque chose de différent. C'est pas et qui aboutit à ce que, censé être sexuellement modéré par nature, naturellement affective, les jeunes femmes seraient les dépositaires privilégiés de cette recommandation, chargés de réguler les besoins impérieux des hommes. Donc on voit bien que cette dichotomie ne favorise pas l'égalité des sexes et des sexualités et tend à les ramener, les individus, à une division plus traditionnelle des rôles, justement à un moment où de la vie qui est favorable à une certaine ouverture. Le genre, en fait, il se construit pas de manière continue. Il y a des moments d'ouverture et il y a des moments de rappel à l'ordre du genre. Tout se passe comme si cette inquiétude adulte, exagérée, contribuait à un rappel à l'ordre dans un contexte où les contrôles directs ne marchent plus. Voilà, je vais m'en tenir là. Merci de votre attention.